Pour l'amour de Sion, Israël, mythe et réalité. Bonjour, nous sommes Stéphanie Soufir et Michael Barzvi, nous sommes à Radio TAF à Tel Aviv. Nous allons vous proposer une série d'émissions dédiées à Israël et au sionisme, à travers l'histoire, les grands événements qui ont marqué Israël, les personnages qui l'ont façonné, les idées et les mouvements de pensée qui ont forgé cette histoire. Notre but est de comprendre, d'expliquer, de donner des faits et des éléments de réponse aux questions que tout le monde se pose sur Israël et le sionisme. Bonjour Michael.
Bonjour Stéphanie.
Aujourd'hui, notre émission est dédiée au sionisme et à l'autodéfense.
Oui. Le sionisme, c'est une idée, on en parle un petit peu dans ces émissions déjà. C'est une idée qui s'est imposée en tant que à la fois aventure existentielle pour certaines personnes, en tant qu'aventure culturelle, évidemment, tout le lien, l'amour que le peuple juif portait à cette terre. Mais il fallait réaliser ce rêve. Et lorsqu'on a commencé à réaliser ce rêve, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'obstacles. Et un des obstacles, dans un premier temps, c'était qu'il y a eu une opposition au sionisme, qui n'était pas seulement une opposition idéologique, ou une opposition, je dirais, d'opinion, mais également une opposition violente. Mmh. Et donc, le sionisme a eu à faire face, presque dès les débuts de l'installation d'implantations, de bourgades, de kibboutzim, de moshavim en Eretz Israël, a eu à faire face à une opposition violente. Et donc, par rapport à cela, le sionisme a dû organiser son autodéfense, ou en tout cas, à mettre en œuvre des moyens pour réaliser ses objectifs sans être, sans souffrir justement de cette violence, et même peut-être sans, pour empêcher, disons, que les attaques dont les communautés juives, les villes et les villages étaient les victimes.
Quelle forme prennent ces premiers groupes d'autodéfense ?
Alors c'est un petit peu curieux parce que dans un premier temps, évidemment, le sionisme, le mouvement sioniste moderne en tout cas, des juifs ont toujours habité en Palestine. Alors ils vivaient sous autorité de puissances occupantes et donc de l'Empire ottoman. Donc l'Empire ottoman était censé protéger les juifs. Mmh. Et les communautés juives, sans aucun rapport avec le mouvement sioniste, puisque les juifs vivaient à Safed, à Jérusalem, à Yafo, dans toutes sortes de villes, il y avait des juifs qui vivaient et qui étaient protégés. Mais ils avaient un statut d'infériorité. Ils étaient considérés comme une minorité et parfois dans un statut d'infériorité.
C'est-à-dire
qu'ils n'avaient pas les mêmes droits que notamment le pouvoir, dans le cas du pouvoir ottoman, il n'avait pas les mêmes droits que tout le monde. Alors, lorsque le mouvement sioniste se met en place et commence à créer ses premières colonies agricoles, notamment, ces colonies demandent la protection de l'Empire ottoman. Mm-hmm. Alors, l'Empire ottoman a une attitude un peu curieuse. D'un côté, c'est de protéger, mais d'un autre côté, de ne pas faire beaucoup de zèle. Et donc, petit à petit, on se rend compte que ces colonies agricoles sont parfois attaquées, souvent par des pillards, souvent par des voleurs, souvent par des gens qui veulent tout simplement voler du bétail, voler des produits agricoles et peut-être même parfois violer les biens des gens qui se trouvent. Donc petit à petit, se met en place des services, disons, de protection. Et donc on apprend à manier les armes. Mais encore une fois, il ne s'agit pas ici d'une armée, il s'agit simplement d'une espèce de service de protection de certains kibboutzim. Donc par exemple en Galilée, en Emek Israël, les mouvements sionistes, ce qu'on appelait un mouvement qui s'appelait Halutz, commencent, les mouvements qui s'appellent par exemple à Shomer, à Shomri, donc c'est la protection. Ils gardent tout simplement, alors ils apprennent à monter à cheval, ils apprennent à tirer à la carabine, ils apprennent à avoir des activités, je dirais, un peu plus sportives, et donc se former à un entraînement qui, au départ, est simplement paramilitaire.
Et voilà. Au début, c'est vraiment que des petits groupes indépendants les uns des autres.
Voilà, indépendants au départ les uns des autres. Il y a dans le nord de la Galilée une organisation qui regroupe, disons, tous les services ou les groupes qui protègent tous ces kibboutzim. C'est un groupe, et donc ils sont employés entre guillemets ou par ces différents kibboutzim pour garder. Ils sont parfois aidés d'ailleurs par des Arabes. C'est-à-dire certains sont formés même par des Arabes de la région qui leur apprennent à monter à cheval. Ils ont des relations, je dirais pas d'amitié, mais en tout cas à cette époque-là, on ne parle pas encore d'une opposition, je dirais, à caractère national. C'est une opposition parfois locale. Mais souvent, c'est plutôt pour se protéger contre des attaques à caractère, je dirais, plutôt criminel que politique. Il y a des attaques également à caractère antisémite religieux. Ça existe. De temps en temps, des juifs de Jérusalem sont les victimes de quelques agressions de la part de musulmans, la part de ça et ça. Il y a quelques émeutes qui se déroulent parfois à Yafo également. Et des juifs sont agressés. Mais ça ressemble plutôt, disons, à une forme d'agression de type comme les pogroms antisémites qu'on connaissait en Russie. Par rapport à cela, le pouvoir ottoman, il est plutôt, c'est un pouvoir qui est plutôt mal organisé qu'autre chose. Il n'est pas contre les juifs ni pour, mais tout simplement, il ne fait pas beaucoup de zèle dans la défense des juifs. Voilà. Cela dit, la véritable opposition qui va prendre un caractère politique, qui va être, je dirais, l'origine de ce qu'on appelle aujourd'hui le conflit israélo-arabe, c'est avec l'arrivée des Anglais.
D'accord.
Où là, les émeutes vont prendre un tout autre caractère. Et c'est à partir de l'arrivée des Anglais, grosso modo, fin de l'année 1918, mais plutôt à partir de l'année 1919, que le mouvement sioniste, l'organisation sioniste mondiale, comprend qu'il y a la nécessité d'organiser une autodéfense parce qu'il y a vraiment des menaces. Alors, pourquoi ces menaces ? Il y a une analyse politique, évidemment. On en a déjà parlé. Le pouvoir britannique a toujours eu la même politique coloniale qui consistait à diviser pour régner et donc à monter un petit peu les populations. Ils l'ont fait dans d'autres pays, en Inde et au Pakistan d'aujourd'hui et dans d'autres colonies, de monter au fond les peuples, les tribus, les communautés les unes contre les autres pour justement pouvoir, eux, apparaître comme les représentants de l'ordre. Et donc, lorsqu'il voit la montée du sionisme, il encourage d'une certaine façon, avec le bras droit, ils encouragent le sionisme, avec le bras gauche, ils encouragent les Arabes à s'opposer au sionisme. Et donc, pour s'opposer au sionisme, ils disent aux Arabes, ils vous font une représentation. Il vous faut quelqu'un qui vous représente. Et ils ont l'idée, dont on voit à quel point c'est une idée dangereuse, de créer ce qu'ils appellent le Haut Comité suprême musulman. Et donc, ils décident de nommer à cette fonction le mufti, le fameux mufti Haj Amin al-Husseini, le mufti de Jérusalem, comme finalement la figure qui va représenter le mouvement ou les Arabes de Palestine. Et évidemment, il ne choisit pas le plus modéré. Ils choisissent peut-être la famille Husseini, cette tribu qui est peut-être la plus extrémiste dans son opposition au sionisme. Parce qu'il y avait d'autres familles, il y avait d'autres grandes tribus, d'autres grandes familles, disons, au sein des Arabes de Palestine, qui avaient, disons, des relations un peu plus amicales avec le mouvement sioniste. Et là, à partir de 1919-1920, il va y avoir les premières grandes manifestations. Il y a d'abord quelques manifestations qui se déroulent dans des localités juives de Haute-Galilée.
Des manifestations de révolte.
Non, des attaques contre les localités juives, qui, je le dis encore une fois, on ne sait pas vraiment si c'est pas à caractère national. C'est souvent entre des attaques de pillage, mais également encouragé par le fait que, à la fois, l'armée britannique et même l'armée française, puisque le nord de la Galilée est censé être protégé par l'armée française, mais elle n'est pas présente. Donc, en fait, il y a un premier incident, c'est Tel Hai, c'est cette fameuse ferme agricole dans laquelle 8 juifs vont trouver la mort en se battant jusqu'au bout, et notamment sous la direction de Yosef Trompeldor. C'est le premier grand, je dirais, incident sanglant qui va coûter la vie donc, à des juifs et qui va servir un petit peu de symbole. Parce que cet épisode héroïque va entrer dans ce qu'on appelle la légende sioniste de la guerre, si je peux dire. Et donc, à partir de Tel Hai, va se créer une vision d'un sionisme qui n'est pas seulement un sionisme, je dirais, à caractère culturel, social, politique, mais qui aussi va prendre un caractère aussi militaire. Donc, il va falloir créer, je dirais, un héroïsme juif. Et donc, on va revenir aux racines du ghetto de Varsovie, on va revenir aux racines de Masada, on va se rappeler tous ces mythes d'un peuple qui n'a pas toujours été un peuple pacifique et qui donc a su se battre à certains moments de son histoire. Donc, à partir de 1920, ces émeutes vont se propager à Jérusalem, et notamment cette grande manifestation qui tourne en émeute en avril 1920, dans laquelle Jabotinsky, qui crée cette organisation d'autodéfense, va être arrêté et condamné à 15 ans de prison. Ces émeutes, elles se font contre des juifs à Jérusalem au cri de Itbach el Yahoud, c'est-à-dire allons égorger, massacrer les juifs. C'est pas une, ce n'est pas une. C'était pas une manifestation syndicale. Et donc, au terme de ces émeutes, le mouvement sioniste comprend qu'il est nécessaire de créer une organisation d'autodéfense qui va s'appeler la Haganah.
D'accord.
Alors, cette Haganah, elle commence à exister au départ dans deux domaines, qui est la formation des gens, ce qu'on appelle la formation militaire ou paramilitaire, et le fait de créer des dépôts d'armes. D'accord. Parce qu'il faut également acheter des armes, essayer d'avoir des armes. Alors en cela, le mouvement sioniste va être aidé, parce que le mouvement sioniste a encore, même au sein de l'armée britannique, des contacts et des amis. Donc il y a une partie des gens de l'armée britannique qui s'occupe d'aider la Haganah à s'organiser, parce qu'il y a certains dirigeants de l'armée britannique en Palestine qui considèrent qu'il est nécessaire que les Juifs aient une forme d'autodéfense et que ça va aider finalement la police britannique à maintenir l'ordre. Donc la question, ce sera la coordination, en fait, d'intégrer, disons, une force d'autodéfense qui permettra aux Anglais, qui ne peuvent pas être, d'après eux, ils n'ont pas suffisamment de soldats ou de policiers pour être partout, donc ils disent, voilà, nous allons aider les Juifs à se défendre, à protéger leur village et leur ville.
Comment réagissent les Anglais, justement ?
Alors, encore une fois, au sein de l'armée britannique, il y a des gens qui sont très bien disposés par rapport à cette idée, et d'autres non, évidemment, qui sont plutôt dans ce qu'on pourrait appeler la tendance, la mouvance pro-arabe, au sein notamment du ministère des colonies et au sein du ministère des Affaires étrangères britannique. Alors, il y a toujours eu ce double jeu chez les Anglais. Hein. Alors, il faut savoir que, par exemple, il y avait un officier britannique très connu qui s'appelait Wingate et qui a été peut-être celui qui a formé les premiers commandos de la Haganah. Et donc, lui a considéré que l'armée britannique avait pour mission de créer une armée juive, de former les juifs justement au combat, à la guerre. Lui, c'était quelqu'un qui avait une expérience, notamment en Inde, et qui était extrêmement, je dirais, brillant dans sa façon de former. C'est un très grand formateur militaire, instructeur militaire. Et donc, c'est lui qui a formé tous les grands généraux qu'on a connus. Moshe Dayan, par exemple, a été formé, je dirais, en tant que soldat. Sa première formation, c'est ce qu'il raconte dans ses mémoires, il l'a faite avec Wingate, et qu'il a fait des repérages de nuit, toutes sortes d'opérations de commando, et qu'il a appris justement avec ces quelques officiers britanniques qui aidaient les Juifs de Palestine à se défendre. Bien évidemment, il y a l'impression, en tout cas, au sein du Yishuv, il y a une impression, c'est que le gouvernement britannique encourage les émeutes contre les Juifs.
Il s'en rend bien compte.
Et d'ailleurs, dans une des manifestations qui a lieu à Jérusalem et ensuite à Yafo, les Arabes manifestent en disant « al-dawla mana », c'est-à-dire, si, je ne suis pas très bon en arabe, mais « al-dawla mana », c'est que ça veut dire « le gouvernement est avec nous ». Donc ils ont l'impression d'être soutenus. Et qu'au fond, à chaque fois que la Haganah essaye d'organiser son autodéfense, l'armée britannique intervient, mais lorsque les Arabes attaquent les Juifs, dans le cas de ces émeutes, tout d'un coup, l'armée britannique n'intervient pas. Donc, ce double jeu va encourager la création de forces d'autodéfense un petit peu partout, dans toute Eretz Israël. Tous les villages, on comprend qu'il faut être défendu, et va se créer petit à petit, je dirais, une conception de l'autodéfense sioniste. Une conception qui est fondée sur plusieurs principes qu'on analysera après.
Cette petite pause musicale, à tout de suite. Alors, Michael, comment est organisée cette Tagana, justement ?
Alors, suite aux émeutes et donc aux graves événements qui s'étaient passés en 1920 et à la création de la Hagana, avec l'accord d'ailleurs des Britanniques, mais les Britanniques imposent des lois assez curieuses. D'un côté, ils sont d'accord pour qu'il y ait une organisation d'autodéfense, et d'un autre côté, le port d'armes est interdit.
Ah, vraiment ?
Donc, il faut se défendre, mais comment ?
C'est un peu étonnant.
Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisqu'il y a plus d'émeutes et plus de pillages et d'attaques contre les colonies juives, qu'est-ce qui se passe ? Le nombre de soldats va diminuer.
Le nombre de soldats ? D'accord.
Voilà. Les Britanniques décident de baisser le nombre de soldats. Donc, en fait, ça encourage les Arabes à attaquer plus souvent. Et l'idée, c'est d'essayer de démoraliser les membres de ces kibboutzim, de ces villages, en disant s'ils sont attaqués tous les soirs et tous les jours, ils vont se décourager, ils vont partir. En fait, ce qui se passe, c'est évidemment exactement le contraire. Et donc, ces petits groupes s'organisent autour de plusieurs personnalités, puisque Jabotinsky avait été expulsé. C'est un des descendants de la famille Aronson, qu'on avait rencontré dans le Nili, le dernier descendant, qui s'appelait Alexandre, qui crée une petite organisation clandestine qui s'appelle les Fils de Benjamin, Bnei Binyamin, et qui organise avec des anciens soldats de cette légion juive dont on a parlé dans la Première Guerre mondiale, ces milices d'autodéfense, mais évidemment qui se heurtent à l'opposition de l'administration britannique. Alors, pendant cette période, il y a au départ à peu près 500 à 600 personnes bénévoles qui entrent dans la Haganah et qui se préparent à la fois, disons, au maniement des armes, mais également à l'autodéfense, et à essayer surtout à chaque fois qu'ils surveillent des kibboutzim ou des moshavim, de ne pas se faire prendre par les Anglais pour ne pas qu'on leur confisque les armes. Cela dit, les Anglais savent que les Juifs ont des armes. Et donc, il y a à la fois des dépôts clandestins qui sont créés et des gens qui sont formés à l'autodéfense contre l'avis de l'administration britannique qui, malgré tout, est au courant de cela. Au cours de la période de 1923 à 1928, c'est-à-dire jusqu'à la veille de l'attaque contre les Juifs de Frébron qui va changer radicalement la donne en matière d'autodéfense, il y a plusieurs dépôts d'armes, dont un qui se trouve près de Tel Aviv, et on estime que les réserves en 1927, que la Haganah dispose d'armes assez importantes, disons, les chiffres qu'on a, c'est 27 fusils mitrailleurs, 750 fusils, 1000 pistolets, 250 grenades, et le chef de la Haganah, qui s'appelait à l'époque Yosef Hert, est en fait employé par la Histadrout, on a déjà évoqué ce qu'était la Histadrout, qui est le syndicat, qui reçoit un salaire mensuel qui lui permet de subvenir à ses besoins, et petit à petit, son rôle, c'est justement de recruter des jeunes pour entrer dans la Haganah. Et au début de 1929, il y a dans la Haganah environ 2000 membres. C'est-à-dire c'est trois fois plus. En cinq ans, la Haganah a grandi de trois fois plus, dont la majeure partie habite dans les villages. C'est-à-dire l'idée de Yosef Hert en tant que, je dirais, chef de cette Haganah, c'est qu'il y ait dans chaque village des bénévoles qui soient formés au combat et pour protéger le village. Disons qu'il y a à peu près un millier de membres de la Haganah qui sont dans tous ces kibboutzim, et l'autre millier se trouve dans les grandes villes, Jérusalem, Tel Aviv, Haïfa, etc. Dans chaque grande ville, bien évidemment, il y a un responsable. C'est constitué sur le modèle d'une petite armée, avec un commandant, avec des officiers, avec des soldats, avec des... Donc c'est très... ça se crée comme un mouvement militaire hiérarchisé, et qui va se professionnaliser au cours des années. Il y a eu plusieurs réunions avec des commandants de région qui ont été nommés. On a fixé un règlement de la Haganah sur le système de fonctionnement qui expliquait, par exemple, que tout juif, homme ou femme, pouvait, à partir de l'âge de 17 ans, entrer dans la Haganah, s'engager, qu'il sera considéré comme un novice pendant 6 mois, qu'ensuite il sera affecté à ce qu'on appelait une compagnie, que chaque compagnie va comprendre un certain nombre de soldats, disons, de environ 70, et qu'à partir de 70 personnes, ils font ce qu'on appelle un méfaquet, c'est-à-dire un commandant de cette plouga. Chaque mois, le commandant de région devra réunir les commandants de toutes les régions, doivent se réunir. Malgré tout, cette organisation, elle va compter par la suite, parce que la population arabe, l'opposition grandit, mais pas l'organisation.
D'accord.
Et donc, ça explique beaucoup de choses par la suite. Parce qu'on s'est toujours posé la question pourquoi, pendant la guerre d'indépendance, l'État d'Israël, enfin, l'État de Sahel, a gagné cette guerre alors qu'il était numériquement très inférieur. Justement, c'est parce que dès le départ, ça a été très bien organisé. Il y avait cette notion de hiérarchie, cette notion de formation, cette notion de l'importance de l'instruction militaire, l'importance du respect de la hiérarchie, l'importance justement de cette coordination. Alors que du côté arabe, certes, l'opposition au sionisme a grandi, montait, mais pas l'organisation. Mmh. Et le moufti de Jérusalem et toutes les bandes, c'était un peu des bandes arabes qui étaient désorganisées, très peu de coordination entre elles. Et donc, quelque part, c'est ce qui a été peut-être le grand défaut c'est que les Arabes, dans la guerre de 48 en tout cas, les Arabes de Palestine n'ont pas été en mesure de créer une véritable armée pour s'opposer au mouvement sioniste et à l'État d'Israël par la suite et à Tsahal. En 1928, se réunit ce qu'on appelle le Haut Comité arabe, dirigé par ce Hadj Amin al-Husseini, et ils décident qu'ils vont relancer leur opposition violente au sionisme. Et ils le font parce que le nouveau haut-commissaire, Lord Chancellor, qui est nommé en 1928 en Palestine, est connu comme ayant des opinions pro-arabes.
D'accord.
Et donc ils savent qu'à partir du moment, ils vont, ils ont compris que c'est le moment pour eux de relancer l'attaque contre, des attaques contre le sionisme, qui s'était un petit peu calmé entre 23 et 28. Et donc à la fin de l'été 1928, avant même l'arrivée de ce nouveau haut-commissaire qui avait été nommé, et alors que le pouvoir était détenu par ce qu'on appelle un secrétaire, qui s'appelait Harry Locke, celui-ci prend des relations, avec des entretiens, des très bonnes relations avec Hadj Amin, et les tensions vont monter très rapidement. Ce qu'on appelle le Comité suprême musulman publie une déclaration dans laquelle il dit par exemple que le monde du temple est sacré.
Ça me rappelle quelque chose, c'est marrant, ça me rappelle quelque chose.
Que le monde du temps doit être considéré comme un dieu saint musulman, et que le jour du Yom Kippour, il est hors de question de laisser des juifs venir prier dans un lieu saint musulman, puisque le mur des Lamentations fait partie
bien
de
entendu,
cette fameuse espèce des mosquées du monde du temple. Et donc, il décide par exemple de supprimer la séparation entre hommes et femmes, qui était pratiquée dans le mur des Lamentations. Donc il y a déjà, dès le départ, de nouvelles provocations, des juifs sont attaqués dans les rues de Jérusalem, et la tension monte. Il y a les premières émeutes déjà au moment des fêtes de Tichri, disons, de 1928. Et petit à petit, cette situation va se dégrader jusqu'à arriver la fameuse attaque de Hebron, dont je vais expliquer un peu Encore une fois, tout ça est lié évidemment à des questions religieuses à chaque fois. On invoque des questions religieuses. Ce qui va donner au fond le feu vert, c'est une décision qui est prise en juillet 1929 par l'administration britannique et par ce nouveau haut-commissaire qui était donc responsable du mandat britannique, de saisir toutes les armes appartenant à la Haganah. Encore une fois, comme je l'ai dit, le port d'armes était interdit, mais les Britanniques savaient qu'il y avait des armes, c'était toléré, c'était accepté, à condition que, tant qu'un soldat britannique ne rencontrait pas un juif armé, tout se passait bien. On savait très bien que la nuit, les juifs protégeaient leur village avec des armes, avec des fusils ou avec des pistolets, mais voilà, c'était plus ou moins toléré, accepté. À partir du mois de juillet, 1929, le soutien des Britanniques est évident lorsqu'on dit que les armes des Juifs vont être saisies, mais pas les armes des Arabes. Aucune décision. Uniquement saisir les armes qui sont détenues par la Haganah. En revanche, on n'évoque absolument pas la possibilité que des Arabes puissent avoir des armes. Ce qui aboutit à l'attaque de Juifs au moins au début du mois d'août, et immédiatement un juif est poignardé par des Arabes dans une rue de Jérusalem. C'est curieux.
Ça me rappelle des choses. Mais
voilà. Et au terme de cette embuscade, évidemment, il y a plusieurs milliers d'Arabes qui manifestent pour soutenir leurs frères attaqués.
Oui, pareil. C'est...
Ça ressemble quand
L'histoire
même.
L'histoire est plutôt répétitive.
Voilà.
Hein.
Et donc, évidemment, le chef de la police britannique envoie une escouade de policiers non armés pour défendre les Juifs.
C'est bien, c'est très très bien.
Donc voilà, très grande efficacité. Des milliers d'Arabes sortent de la vieille ville, se ruent sur les quartiers juifs, et là, il y a un massacre, premier massacre, qui... Il y a 17 Juifs qui sont assassinés, et dans le mois qui suit, plus de 400 Juifs vont être massacrés dans des attaques sanglantes, et notamment dans un des massacres peut-être de sang-froid les plus affreux de toute cette histoire, qui est le fameux massacre de Hebron, qui est une ville où une importante communauté juive réside, à proximité du tombeau du premier patriarche juif, Meherat HaMarpella, d'Abraham. Et donc, ils n'ont qu'une dizaine de carabines, et des 600 juifs qui se trouvent sur place sont presque tous massacrés. À l'époque, à Hébron, il y avait quand même des Anglais pour défendre.
Sans armes ?
Non, il y avait un Anglais.
Ah, avec une arme aussi.
Voilà, il y avait un Anglais armé qui était armé, qui était là présent pour défendre les Juifs. Ce fameux chef de la police qui s'appelait Kaferata. Et bien évidemment, au cri de mort aux Juifs. Et donc, il sort armé de son arme pour défendre les Juifs. Il tire dans la foule pour se frayer un chemin et s'échapper.
Et il a réussi à s'échapper.
Lui a réussi à s'échapper.
Ah, d'accord.
Mais il raconte plus tard que lui-même est malgré tout intervenu pour défendre les Juifs. Son témoignage est assez horrible, puisqu'il raconte justement qu'il essaye de se frayer un chemin, mais entre-temps, il voit ce qui se passe. Et il décrit ce qui se passe, notamment des Arabes qui coupent la tête d'un enfant avec un sabre. Il raconte comment de ses propres mains, il a surpris un Arabe en train de violer une femme juive qui l'a tué. Et donc, dans cette journée terrible à Hébron, il y a 64 Juifs qui sont massacrés. La plupart des cadavres sont retrouvés, découpés en morceaux. Alors évidemment, les survivants s'adressent au pouvoir britannique qui dit « on avait la police puisqu'il y avait un policier sur place ». Mais cela va convaincre finalement le Yishuv, c'est-à-dire les Juifs de Palestine, qu'il est nécessaire d'avoir une véritable organisation d'autodéfense efficace et que, à partir de ce moment-là, le conflit, je dirais, avec les Arabes a atteint un point de non-retour.
Toute petite parenthèse, parce que c'est absolument pas le sujet. Quelle a été la réaction des Anglais suite à ces massacres ? Est-ce que ça a changé quelque chose ou pas du tout ?
Alors, l'administration britannique, comme je l'ai dit, puisque Lord Chancellor avait été nommé, était déjà très anti-sioniste. Et une semaine après Hébron, on a le même scénario qui se déroule à Safed, à Tzfat. Même scénario, les Anglais n'interviennent qu'après le massacre, afin d'empêcher des représailles juives. À Safed, il y a plus de 40 juifs qui sont tués en l'espace de quelques instants. Le gouvernement britannique, tu sais bien ce qu'il décide dans ces cas-là.
De ne rien faire ?
Non, il décide de faire une commission d'enquête sous la direction de Sir Walter Shaw. Cette commission d'enquête, qui séjourne en Palestine pendant 3 mois, va présenter des conclusions. Au terme de ces conclusions, le rapport est que, effectivement, les émeutes étaient préméditées et organisées par les Arabes sous la direction du Moufti. Mais, évidemment, la commission dit qu'il n'y a aucune connivence entre les Arabes et l'administration britannique. Et évidemment, le but de cette commission, c'était de laver de tout soupçon l'administration britannique dans sa participation éventuelle ou indirecte à ces émeutes. Mais pour lui, dans son rapport, il dit qu'il y a une liste de facteurs qui sont à l'origine de ce conflit. L'hostilité des Arabes, bien sûr, mais il dit l'immigration constante de Juifs.
Ça me rappelle quelque chose.
Et le développement de terres et la plantation d'arbres, la création de Yishuvim par le Keren Kayemet et par l'organisation sioniste. Et donc, résultat, il faut limiter l'immigration et empêcher parce que ça énerve les Arabes. Et donc, voilà la conclusion de ce rapport. Et donc, au terme de ces émeutes, et après ce rapport qui est publié plusieurs mois après, eh bien, on va publier, dans un premier temps, on va ajourner des certificats d'Alia, c'est-à-dire qu'on va supprimer 3000 certificats d'Alia qui étaient prévus, on va aller arrêter ces certificats. On va tout de suite empêcher 3000 juifs qui étaient déjà prévus de venir. On nomme une nouvelle commission d'enquête, et puis on va aboutir à un second livre blanc qui
va limiter encore plus l'immigration.
Qui va limiter l'immigration, mais plus que ça. C'est pas seulement limiter l'immigration, qui dit... Il n'existe plus en Palestine de terres cultivables pour les nouveaux immigrants. Donc il ne faut pas de nouveaux immigrants puisqu'il n'y a plus de terres cultivables en 1930.
Est-ce qu'on pourrait considérer qu'à ce moment-là, en petite parenthèse encore parce que ce n'est pas le sujet, les Anglais ont un peu renoncé à créer un foyer national juif en Palestine ?
Tout à fait. Les deux commissions d'enquête, celle de Shaw et celle de Simpson, sont des commissions qui ont renforcé quelque part l'antisionisme évident du gouvernement britannique avec la publication du deuxième livre blanc, celui de Passfield, c'est en octobre 1930. Et donc là, il y a évidemment les limites à l'immigration, à la colonisation, mais aussi la possibilité d'y mettre totalement fin. Mmh. Si la situation est trop tendue, il faut arrêter complètement l'immigration. Alors, le livre blanc de Passfield, il y a des recommandations incroyables par rapport au mandat britannique, c'est-à-dire interdiction de vendre des terres aux Juifs. Et quelque chose que les gens peut-être qui n'ont pas lu ces textes considèrent que la déclaration Balfour n'est plus la base des engagements britanniques sur la Palestine.
Et du coup, quelle est la base des engagements britanniques sur la Palestine, maintenant ?
Eh bien, c'est les intérêts britanniques. Et donc, ce qu'ils disent, nous sommes là pour défendre les intérêts des populations locales, etc. etc. Donc, évidemment, intérêts coloniaux. Mais, alors, même les dirigeants les plus modérés du sionisme, comme Weizmann, qui était pro-britannique, qui lui-même a vécu en Angleterre, qui avait des relations excellentes, d'autres dirigeants comme Lord Melchett, comme Warburg, commencent à comprendre que l'amitié avec l'Angleterre est quand même un petit peu en difficulté. Et à ce moment-là, cela permet aux Juifs de développer une organisation d'autodéfense. Il faut dire aussi que les émeutes de 1929 avaient quand même dévoilé un certain nombre de faiblesses du réseau d'autodéfense, malgré tout.
D'accord.
On s'est rendu compte que à l'échelon national, la Haganah telle qu'elle était, avec ses 2000 volontaires et les quelques armes qu'ils avaient, était totalement incapable de défendre le Yishuv à l'échelon national. Mm-hmm. Donc il faut une force un peu plus construite et certainement beaucoup plus nombreuse. Mm-hmm.
Nous allons refaire une petite pause musicale et on revient juste après ça.
חליל אל החולות של המדבר היה שולח ליטפו את גופה הרך והסופה טרפה הכל
חדל להיות כמו החולות אני רוצה אותך כמו סלע
אז הבטיח לא לנטות שוב כמו החול כשהרוחות אותו לטפו בעוז אחז במות האוהל אוזניו אטם הוא לא לשמוע, לא לנשום כלל את הצליל אתה נבד לחש מדבר, אתה נקבר באוהל צר והכבשים באו בוודי כמו חליל וואו 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 קול קורא לנדוד לנדוד וואו 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 קול קורא כשפרצו השיטפונות שכח את כל מה שהבטיח אל הצלילים של החליל הושיט ידיים בסופה במחול טירוף בקנה הסוף נסחף שיקור כמו חול ברוח גם הסלעים פרסו כנפיים כמו ענפה וכשחזר שוב על סוסו להעמיק את מות האוהל על היריעות היא בחוטים ובצבעים מילים רק מה
ברוך שומך בוגד אחוז היטב במות האוהל כי גם אותי סופה נודדת סחפה
וואו 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 קול קורא לנדוד לנדוד וואו 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 קול קורא צלילי חליל אל החולות של המדבר היה שולח ליטפו את גופה הרך והסופה טרפה הכל
חדל להיות כמו החולות אני רוצה אותך כמו סלע
אז הבטיח לא לנדוד שוב כמו החול.
וואו 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 וואו, קול קורא לנדוד לנדוד. וואו 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 וואו, קול קורא לנדוד לנדוד.
Michael, suite à ces événements, comment évolue la Haganah ?
Alors la Haganah, il faut que tu, comme je l'ai expliqué, dépendait directement de ce qu'on pourrait appeler l'establishment sioniste en Palestine, en Eretz Israël, puisque le chef de la Haganah était payé par la Histadrout, donc c'était quelque part une émanation des institutions sionistes en Israël. Une des leçons des échecs, on pourrait dire, du prix très, très important qu'a payé le Yishuv après les émeutes de 1929-1930, c'est justement la prise de conscience que les dirigeants de la Haganah étaient avant tout des hommes politiques et pas vraiment des bons chefs militaires. Mmh. Et donc, il y a une demande, quelque part, qu'on réorganise la Haganah non plus comme l'émanation d'une organisation politique, mais comme une vraie organisation politique, disons paramilitaire, ou comme ce qu'on pourrait appeler les fondements ou les prémices d'une armée. Alors, il s'agissait d'une façon concrète de nommer un chef qui serait vraiment un chef militaire et plus seulement un représentant de la Histadrout. Mmh. Le premier chef de la Haganah qui va être nommé après ces émeutes de 1929 et de 1930 s'appelait Avraham Théomi. Et donc, lui a décidé de changer les méthodes d'entraînement, d'organiser les dépôts d'armes, de créer un service de renseignement et de faire fonctionner son organisation de façon beaucoup plus militaire et beaucoup plus professionnelle. Mmh. Alors, il a évidemment été nommé pendant un certain temps. Et puis, petit à petit, lui, son idée était effectivement de créer une future armée. Mais il y avait des divergences à l'intérieur de la Haganah sur justement la relation, je dirais, de dépendance par rapport à l'establishment politique.
Malgré tout, malgré les événements.
Oui. Donc, petit à petit, il y a une scission qui s'est formée au sein de la Haganah. Et donc, on a créé ce qu'on a appelé la Haganah bête.
D'accord.
C'est-à-dire une Haganah qui serait indépendante de l'establishment politique, qui ne recevrait pas d'ordre des institutions sionistes, mais qui organiserait tout simplement l'autodéfense pure et simple sur le plan, je dirais, pratique, concrète, militaire. Cette Haganah bête prit ensuite le nom de Haganah Léoumit, Haganah nationale. Évidemment, les dirigeants sionistes et la Histadrout ont attaqué ce groupe en disant que c'était une forme de scission. C'est parti au départ d'un petit groupe de militants de la Haganah de Jérusalem. Petit à petit, cette Haganah bête est devenue une organisation totalement clandestine, puisqu'elle était, je dirais, menacée même de dissolution par l'establishment sioniste. Et donc, elle a fini par s'appeler Irgun Bet.
D'accord. Donc, Irgun Bet.
Voilà, Irgun Bet. Et après quelques temps, c'est devenu ce qu'on a appelé l'Irgun Tzvaï Léoumi. Alors, ça a mis quelques années. Évidemment, Avraham Théomi a essayé de trouver une façon d'organiser cette Haganah sans qu'elle soit liée à un mouvement politique. Mais petit à petit, il s'est rendu compte qu'au fond, il avait besoin, pour organiser ce mouvement clandestin, aussi bien vis-à-vis des autorités britanniques que des autorités sionistes, il avait besoin d'un soutien politique. Et donc, c'est la raison pour laquelle il s'est adressé à Jabotinsky, qui était non pas dans le mouvement sioniste, puisqu'il avait créé une organisation sioniste qu'il appelait révisionniste, qui était en opposition, donc il n'était pas soumis à l'autorité du mouvement sioniste. Et donc, Jabotinsky a décidé de soutenir cette Haganah bête et de soutenir Théomi, qui après, plus tard, a été remplacé par d'autres personnes. Mais Théomi, pendant quelques années, a travaillé en contact avec notamment le mouvement révisionniste, mais aussi le mouvement Jeunesse Bêta, dans lequel il recrutait une grande partie de ses membres. Alors l'accord, évidemment, de Théomy avec Jabotinsky, c'était qu'ils ne fassent rien sans qu'ils puissent porter atteinte au parti révisionniste ou au Bêta. Donc d'accord. Ça, c'était l'accord avec Jabotinsky. Petit à petit, évidemment, Théomy n'était pas un grand stratège militaire et il a été ensuite remplacé dans cette Aganabet qui était déjà entre-temps devenue l'Irgun. Alors, il y a eu quelques événements qui se sont déroulés en Palestine, évidemment, dans les années 30, et aussi en Europe. On est dans une période des années 30 qui est quand même une période difficile en Europe. Il y a la montée du nazisme, la montée du fascisme, il y a la montée de différents groupes au sein même de l'organisation sioniste, qui les oppositions sont de plus en plus dures, de plus en plus violentes. Et même au sein du Yishuv, il y a des organisations dissidentes qui se créent, notamment une petite organisation qui se crée en 1930, qui est une organisation au départ non pas militaire, mais qui va devenir petit à petit la base aussi d'une organisation militaire qui ensuite intégrera l'Irgun Tzvai Lehoumi. C'est une organisation qui s'appelle Brit HaBiryonim. Mm-hmm. Alors les Biryonim, c'est un Biryon, c'est un, on pourrait appeler ça un costaud, un fier à bras. voilà. Et donc, cette organisation est créée par deux personnalités qui ne sont pas du tout des militaires, mais qui sont un journaliste et un grand poète, Uri Zvi Greenberg et Abba Achimeir, mais qui a une idéologie qui, pour la première fois, dit « tous les moyens sont bons pour chasser les Anglais, y compris la violence politique ».
D'accord.
Et ça, c'est le point de départ, peut-être, d'un changement.
D'accord.
Jusqu'à présent, on pensait à une opposition au pouvoir britannique, mais pas à la violence politique, avec tout ce que ça comporte. Donc là, on est sur une idéologie qui consiste à dire « les Anglais sont devenus nos ennemis, et donc Abba Achimeir est arrêté par les Britanniques », puisque c'est une manifestation qui, évidemment, est illégale, interdite. Il est emprisonné, il se défend. Uri Zvi Greenberg aussi professe les mêmes idées. Autrement dit, nous n'avons pas le choix que de chasser les Anglais par la force. Alors, il y a une controverse, encore, c'est des problèmes tactiques. Mais arrive un autre événement, qui va être un événement, je dirais, très important pour, je dirais, les relations internes au sein du mouvement sioniste. C'est... avec la montée du nazisme, il y a un dirigeant sioniste qui s'appelle Chaim Herzorov, qui est d'origine allemande, enfin d'origine polonaise, mais qui a vécu en Allemagne, qui a été entre autres l'amant l'épouse de Goebbels, et qui va négocier avec l'Allemagne un accord pour faire sortir des Juifs en 1933 d'Allemagne. Cet accord, évidemment, est assez critiqué. Malgré tout, il est entériné par l'establishment sioniste. Chaim Herzorov est quelqu'un qui est très charismatique, qui est peut-être à lui pour diriger le mouvement sioniste. Il est quelqu'un de très très central, un intellectuel connu, qui fait parfois peut-être un peu d'ombre à Ben Gurion. Donc est quelqu'un qui est très très, et donc c'est lui qui va négocier. On pense d'ailleurs que dans cette négociation, il a utilisé ses relations avec Magda Goebbels. Enfin, c'est des théories comme ça qui sont pas forcément prouvées, mais il est assassiné en 1933, à Tel Aviv, sur la plage. D'ailleurs, au bout de la rue qui s'appelle Arlozorov, sur la plage, il est assassiné. Alors, c'est là où commence vraiment un vrai débat, parce que le Yishuv, l'establishment, accuse les membres du Brit HaBiryonim et de l'Irgun, qui ne s'appelait pas encore l'Irgun, de cet Irgun Bet, d'être les auteurs de cet assassinat.
Pourquoi ?
Eh bien, encore une fois, ils pensent qu'ils se sont vengés à cause de l'accord qu'il avait négocié avec les Allemands, et aussi parce que c'est une façon de se révolter contre l'establishment. Évidemment, tout ça fait l'objet d'un procès d'accusation terrible, et ça va créer un climat extrêmement délétère et très très violent, après l'emprisonnement de trois personnes, Abba Achimeir, le fondateur de Brit HaBiryonim, Avraham Stavsky et Tzvi Rosenblatt, qui sont accusés de meurtre, et sont reconnus par la femme de Chaim Herzorov, qui dit « je les ai vus », alors que ça se passe la nuit sur la plage, et qu'apparemment, d'après ce qu'on a vu sur certains témoignages qui ont été publiés de longues années après, peut-être 50, je crois presque 45 ou 50 ans après, on a découvert que des protocoles de la police de Yafo qui avaient interviewé les témoins et qui disaient que les agresseurs parlaient arabe. Alors ces trois-là ne parlaient pas très bien l'arabe. Jabotinsky est persuadé que, évidemment, le mouvement révisionniste et les Brittebyrionismes n'ont rien à voir, et donc que c'est une espèce de procès de l'affaire Dreyfus, que ça a été, qu'il y a eu des faux témoignages. 6 mois plus tard, il y a 2 Arabes qui se présentent, qui sont arrêtés, mais ensuite relâchés, et qui reconnaissent le meurtre. Mais évidemment, leurs dépositions ont été détruites ou ont disparu. Quelques jours plus tard, ils reviennent sur leurs aveux. Le procès des accusés est assez complet. Ça devient un procès politique et ça devient vraiment presque une, je dirais presque une guerre. On est au bord d'une guerre civile, finalement, au sein du Yishuv, entre la Histadrut, l'establishment sioniste et les mouvements révisionnistes. Alors, encore une fois, jusqu'aujourd'hui, on n'a pas de réponse définitive sur cette question. Il est évident que les 3 personnes en question n'étaient pas responsables de ce meurtre, mais il y a toutes sortes de théories, évidemment, les théories complotistes habituelles. Peut-être que c'était des Arabes, mais qui a envoyé les Arabes? On aurait, encore une fois, peut-être c'était des délinquants, mais qui était derrière tout ça? Et évidemment, tout ça se développe, ça porte énormément de tort au mouvement révisionniste, qui perd les élections et qui, évidemment, est extrêmement marqué par cette... encore une fois, il faut comprendre le contexte. Le contexte, c'est la montée du nazisme. Et on identifie l'extrême droite ou la droite israélienne, Jabotinsky, avec le mouvement fasciste. On dit, voilà, c'est les méthodes fascistes, c'est la façon dont agit l'extrême droite. Et en plus, ils sont pour la violence, ils organisent des organisations d'autodéfense, etc. Donc tout ça crée une situation extrêmement compliquée. Mais d'un autre côté, ça va aussi engendrer, je dirais, une clandestinisation du mouvement de l'Irgun, qui va devenir, après 1935-36, l'Irgun Tzvaï Léoumi, et qui va devenir une organisation totalement clandestine, avec 5 hommes donc, qui ont des fonctions et qui sont placés directement sous l'autorité de Jabotinsky, qui est le dirigeant révisionniste, mais qui n'est pas en Eretz Israël. Et donc, il y a à la direction un comité politique, mais aussi sur le terrain des organisations, des comités, des petits groupes clandestins qui se sont créés un petit peu partout. 1936, arrivent les grandes émeutes arabes. Et donc, une révolte, ce qu'on a appelé la grande révolte arabe, de 1936 à 1939, on est dans un conflit armé avec des attaques permanente contre le Yishuv de la part des Arabes, non un peu partout, à l'échelon, je dirais, national, partout. À tel point que les Anglais sont obligés d'intervenir, les sionistes vont évidemment se défendre, et dans le cadre de cette organisation de l'autodéfense va arriver un incident qui se déroule en 1938, un juif qui décide de se défendre et qui donc, face à la passivité de la communauté de Galilée qui est constamment attaquée, décide de contre-attaquer et va attaquer un autobus arabe qui circule. Alors évidemment, il tire sur cet autobus, il n'y a pas de victime, mais il est arrêté par la suite par les Anglais et il essaye d'envoyer une grenade. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de victime, mais il est arrêté en 1938 et condamné à mort pour attaque à main armée, port d'armes sans permis, mise à feu d'explosifs, etc., prédication de meurtre. Et donc, il va être pendu parce qu'il lui refuse de demander la grâce, parce qu'il est condamné à mort, mais on lui dit « demande la grâce, tu seras gracié ». Il dit « moi je refuse, je ne suis pas coupable ». Jabotinsky va finalement lui-même s'adresser à la couronne britannique pour essayer de demander la grâce pour ce juif qui s'appelait Shlomo Ben Yosef. Et Shlomo Ben Yosef va être pendu. Et c'est le premier juif pendu par les Anglais. C'est en 1938. Ça va être un grand choc, à la fois pour Jabotinsky, qui considère qu'il n'a peut-être pas tout fait pour le sauver. C'est la première fois qu'un juif est pendu par les Anglais, et en plus, il n'a tué personne. Donc là, l'Irgun, et même dans la Haganah, les gens comprennent que, quelque part, je dirais l'antagonisme, l'hostilité vis-à-vis du sionisme est évidente, elle est patente, et donc nous allons, à un moment ou à un autre, nous retrouver face, je dirais, à une guerre, une révolte contre les Anglais. Mais en 1939 arrive ce que tout le monde sait, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Et là, les organisations d'autodéfense, que ce soit la Haganah et l'Irgun, décident qu'il faut faire une pause. Donc on ne peut plus attaquer l'Angleterre, il faut se ranger du côté de l'Angleterre et donc combattre, comme le disait Ben-Gurion, combattre le mandat comme s'il n'y avait pas l'Allemagne, comme s'il n'y avait pas le nazisme, et combattre le nazisme comme s'il n'y avait pas de mandat. Mais concrètement, ça veut dire qu'une partie des actions entreprises par l'Irgun et des actions d'autodéfense de la Haganah vont s'arrêter, et certains vont s'engager dans l'armée britannique, notamment à travers la brigade juive, d'autres vont aller combattre, notamment en Irak. Le chef de l'Irgun, à la veille de la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelait David Raziel, sera d'ailleurs tué en Irak, dans une opération dans le cadre de la guerre en Irak au sein de l'armée britannique, contre Rachid Ali, qui était soutenu à l'époque par le gouvernement de Vichy, le gouvernement français. Donc quelque part, la Haganah et l'Irgun vont cesser toute opération contre les Anglais. Alors, la Haganah, les opérations d'autodéfense de la Haganah se contentaient plus en termes d'autodéfense, de protection des Yishuvim, et d'un autre côté, dans l'immigration illégale. Immigration clandestine, dans laquelle il y a une énorme activité qui avait besoin aussi d'un soutien d'une organisation d'autodéfense sur le plan pratique et la formation militaire également. L'Irgun avait des objectifs qui étaient moins importants en nombre de membres, bien évidemment, ne s'occupait pas de protection des Yishuvim, mais s'occupait d'organisation, à la fois d'opérations de représailles, mais également de formation militaire, d'instruction militaire. Ce qui fait que, finalement, il y avait peut-être une espèce de complémentarité, même s'il y avait une opposition entre ces deux mouvements, il y avait une complémentarité. Par la suite, un autre mouvement est né, qui s'appelait le groupe Stern, ou la Lehi, Lohamei Herut Israël, les combattants pour la liberté, la libération d'Israël, la liberté d'Israël, qui avait une position plus radicale et qui n'était pas prêt du tout à coopérer avec les Anglais, qui considérait qu'il fallait continuer le combat contre les Anglais, même si les Anglais combattaient le nazisme. Alors, c'est des divergences idéologiques. Ces trois mouvements ont continué à exister jusqu'à la guerre d'indépendance. D'accord. Et après, ils se sont dissous lorsque Tsahal a été créé. Ils ont intégré l'armée de Tsahal, mais ça a été... Au fond, ces organisations d'autodéfense ont été à l'origine de Tsahal, de l'armée israélienne. Pour mieux saisir ce que c'était, le conflit était à la fois idéologique, bien évidemment, puisque la Haganah, c'était le bras droit de ce qu'on appelait le Mapai, de l'establishment politique sioniste, qui avait environ 5000 membres en 1937, à peu près, pour donner une idée. L'Irgun, en 1938, avait... environ 3500 membres. Alors, il y avait dans la Haganah une partie, donc c'est 5000, mais il y avait également plusieurs milliers d'autres qui n'étaient pas formés militairement, mais qui participaient malgré tout à ce qu'on pourrait appeler une défense passive. C'est pour ça que dans cette organisation, il y avait énormément de femmes qui participaient à la défense des kibboutzim, sans pour autant faire partie directement de la Haganah. Voilà ce qu'on peut dire sur cette autodéfense qui s'est mise en place et qui a créé, qui a été, je dirais, à l'origine de l'armée d'Israël.
Merci beaucoup, Michael. Merci à tous de nous avoir écoutés et nous nous quittons en musique. Leitraot.
יש דברים שאסור לראות תשמור על העולם ילד אם תראה תפסיק להיות גיבור של העולם ילד עם חיוך של מלאכים תשמור על העולם ילד כי אנחנו כבר לא מצליחים תשמור על העולם ילד אל תגזים במחשבות כי כמה שתדע יותר ילד אתה רק תבין פחות ובשעה